Il est 8h.
Les gens sont chez eux, ils ont envie de faire des travaux. Nous, on n'a pas eu un carnet de commandes aussi rempli depuis au moins 10 ans. Donc c'est un secteur qui fonctionne, mais encore faut-il qu'on ait les matériaux.
Paradoxe économique. La reprise dans le secteur du bâtiment est si forte qu'elle fait exploser les prix des matériaux, ce qui risque de bloquer certains chantiers. C'est le dossier d'Europe 1 dans un instant. Un anniversaire bien terne, les 5 ans d'En Marche hier soir. Jean Castex et Édouard Philippe ont dit quelques mots, mais sans passion pour le parti présidentiel. Et puis, un joueur unique. La mascotte du PSG devenue celle du Bayern de Munich. Éric-Maxime Choupo-Moting sera très regardé ce soir. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un témoignage ce matin, celui de Michel Philippin, qui a accompagné son épouse vers la fin de vie en Suisse. Un témoignage sur un sujet sociétal et civilisationnel toujours sensible.
Rendez-vous à 8h15, Sonia. Il est 8h01 sur Europe 1. Un très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Au moment où le monde entier veut croire à son redémarrage, montée en puissance de la vaccination, plan d'investissement, plan de relance, au moment où la France pousse pour la rénovation énergétique des bâtiments, après les différents confinements, vous avez peut-être des projets, agrandissement, construction d'une maison, sauf que l'activité de nombreux chantiers est menacée.
Et on va comprendre tout cela avec vous Maud Descamps, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Depuis quelques semaines, les prix des matériaux explosent.
Oui, que ce soit l'acier, le PVC, le cuivre ou encore le bois de construction, on observe plus 30, plus 40, plus 50% de hausse des prix. C'est vraiment du jamais vu dans le secteur.
Alors, vous allez nous expliquer les causes de tout cela, mais soyons clairs, cette hausse des prix, les artisans la ressentent déjà très concrètement. Vous allez le voir avec ce reportage de Charles Guyard chez un menuisier charpentier près de Nantes.
La veille pour le lendemain, on a failli arrêter l'entreprise parce qu'on n'avait plus des panneaux de bois et on n'arrivait plus à se fournir.
Spécialisée dans la construction de maisons en bois, l'entreprise Safran au nord de Nantes doit faire face à une équation à deux inconnues. La pénurie de matériaux et par conséquent la hausse du prix des matières premières. Une crise d'ampleur inédite pour le patron Pierre Briodeau qui, pour pouvoir honorer ses prochains contrats, s'est constitué un stock à l'arrière du bâtiment.
D'habitude, on a une palette d'avance. Et là, on en a plus du double.
Un réflexe qui alimente d'ailleurs la pénurie, entraînant elle-même la flambée des prix. Le gérant est bien conscient de ce cercle vicieux. Mais pas le choix s'il veut éviter que la facture finale ne soit supérieure au devis initial.
Au moment où on signe, on ne sait pas à quel prix on va acheter. On nous annonce que ça peut encore prendre 20%. Alors on a une maison à peu près 110 mètres carrés. Si on signe le marché, c'est un chantier sur lequel on peut perdre de 6 à 12 000, voire 15 000 euros. Donc on s'interroge, est-ce qu'on doit le signer ou pas?
Un dilemme d'autant plus difficile que la conjoncture actuelle est particulièrement positive. De fait, chez Safran, le carnet de commandes n'a pas été aussi bien rempli depuis une dizaine d'années.
Voilà, on voit le casse-tête très concret que ça pose. Maud Descamps, comment on explique cette envolée des prix au départ?
Alors, comme souvent dans une crise, il y a plusieurs facteurs. Le Covid, qui a complètement désorganisé les filières d'approvisionnement. Les usines et les chantiers qui étaient à l'arrêt ont redémarré brutalement au début d'année. Chacun a essayé d'aller se fournir là où la production a repris, ce qui a fait grimper les prix. Dans le même sens, le prix du fret, donc du transport des marchandises, a explosé. Plus 400% pour les containers, dont beaucoup étaient coincés aux quatre coins du globe. Et puis, autre facteur qui n'a cette fois rien à voir avec le virus... Une taxe de Donald Trump sur le bois canadien. Conséquence, les États-Unis se fournissent désormais en Europe et donc les prix grimpent.
Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale?
Alors, les experts me disent oui, mais pas avant plusieurs mois. Du côté de Bercy, on assure surveiller de très près la situation. Au ministère de l'Industrie, on assure que dès juin, ça pourrait rentrer dans l'ordre. Mais du côté des professionnels, on est loin d'être aussi confiant. Un chef d'entreprise me confiait hier qu'il ne répondait plus aux appels d'offres, faute de visibilité sur les prix et sur les délais de livraison.
Dossier signé Maud Descamps ce matin du service économie d'Europe 1 avec Charles Guyard.
Alors que les hôpitaux français accueillent à nouveau depuis hier plus de 30 000 patients Covid au total, on retient tout de même ces chiffres encourageants que nous donnait Victor Dolande dans le journal de 7h. Les 19 départements qui connaissent des restrictions depuis un peu plus de deux semaines voient aujourd'hui une baisse des nouvelles contaminations. Lui aussi se dit prudemment optimiste. C'est le patron d'Air France, Ben Smith, qui commente dans le journal Les Échos la recapitalisation de la compagnie, on en parlait hier, et au sujet de la reprise du trafic aérien aux États-Unis comme en Chine. Je ne m'attendais pas à un redressement aussi rapide, dit-il.
Il y a encore deux mois, le Portugal était le pays le plus durement frappé en Europe par l'épidémie. Après un confinement très strict de deux mois, la situation s'est largement améliorée.
Oui, pour preuve, ce chiffre, il y a eu seulement 6 décès enregistrés hier. Alors le pays retrouve peu à peu un sentiment de liberté. Henri de la Guérie.
Elle attendait ça depuis le mois de décembre. Francisca Castro, notaire à Lisbonne, a retrouvé le plaisir du café en terrasse.
Je vais vous dire, le plus important pour les Portugais, c'est de pouvoir prendre un café hors de la maison. Ça fait 2 mois qu'on était confinés, donc on est soulagés.
Mais ce déconfinement est très progressif. Seules les terrasses sont ouvertes pour l'intérieur des restaurants. Il faudra encore attendre 2 semaines. Après les écoles maternelles et primaires il y a 15 jours et avant les lycées, hier ce sont les collèges qui ont rouvert pour Francisca, qui est un garçon de 14 ans. C'est une bonne chose, mais elle reste très prudente.
Très heureuse parce que mon fils est un adolescent, donc il a besoin aussi du contact avec ses amis. Mais en même temps, on n'est pas complètement soulagé. On ne veut pas que tout s'ouvre non plus en même temps, hein, pour qu'on n'ait pas à revenir à nouveau à un confinement comme on l'a eu pendant 2 mois et comme on a eu l'année dernière aussi.
Et le gouvernement portugais a prévenu, si la situation sanitaire se dégrade, il n'hésitera pas à faire marche arrière.
Voilà, Henri de Laguérie au Portugal, le Portugal qui retrouve ses terrasses. Quant à l'Angleterre, voici comment Boris Johnson se prépare à retourner au pub. On va l'écouter en version originale, je vous ferai les sous-titres après.
Monday the 12th, I will be going to the pub myself and cautiously but irreversibly raising a pint of beer to my lips.
Pint of beer. Lundi 12, j'irai moi-même au pub et je porterai prudemment, mais de manière inéluctable, une pinte de bière à mes lèvres. Voilà ce que nous dit le Premier ministre britannique. Jeff Bezos est à nouveau l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk. Selon le classement annuel du magazine Forbes, sa fortune personnelle serait de 177 milliards de dollars, comparable au PIB de la Bulgarie ou du Kenya. Il y a des Français dans ce classement, à commencer par Bernard Arnault, troisième fortune mondiale, 150 milliards de dollars, mais aussi des petits nouveaux chez les milliardaires.
Kim Kardashian, tiens. Mais aussi le patron du laboratoire Moderna, dont on s'arrache le vaccin, bien sûr, c'est le français Stéphane Bancel, qui disposerait de 4 milliards de dollars.
Et souvenez-vous de ce ministre de l'économie qui voulait que les jeunes Français rêvent de devenir milliardaires. C'était en 2015, ce ministre s'appelait Emmanuel Macron, et il allait créer le mouvement En Marche un an plus tard, en 2016. Nous sommes donc 5 ans après, anniversaire, célébré hier soir, sauf que, entre la pandémie, les tiraillements politiques dans la majorité et le manque de figures qui incarneraient ce mouvement, eh bien le meeting virtuel que Jean-Rémy Baudot a suivi pour Europe 1 n'était pas des plus enjoués.
Bonsoir à tous, bienvenue pour ce meeting numérique exceptionnel.
À l'image, la porte-parole d'En Marche, Maud Bréjon, sur scène pour chauffer une salle vide. Pandémie oblige, les marcheurs étaient en Zoom depuis leur salon.
Alors on voit Raphaël, on voit Bertrand du Gers.
5 ans et une place toujours aussi compliquée pour La République En Marche. À écouter l'ancien patron du mouvement, Christophe Castaner, LREM n'est pas la majorité, mais...
LREM doit être un des éléments d'une majorité présidentielle qui tend la main et qui rassemble.
Tendre la main, y compris à Édouard Philippe, qui hier a pris plaisir à rappeler qu'il avait toujours gardé ses distances.
J'avais évoqué l'engagement partisan. Et ça pouvait sembler bizarre que j'évoque ce sujet, puisque je n'étais à l'époque pas membre d'En Marche. Je ne suis toujours pas d'ailleurs.
Heureusement, l'actuel Premier ministre avait lui aussi envoyé une vidéo pour glorifier la logique du rassemblement.
Dépassement. Quel beau mot promu par Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron qui fut le grand absent de la soirée, le président n'a pas souhaité fêter le mouvement qui au départ portait ses initiales. Certains y verront la confirmation que sa prochaine campagne se prépare sans LREM.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, une solution, un geste solidaire pour que des personnes isolées aient accès au numérique.
Et puis un joueur souvent moqué mais adoré aussi dans ses 2 clubs successifs, le PSG et le Bayern, Choupo-Moting sera ce soir sur le terrain.
A tout de suite sur Europe 1, 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
À l'époque, l'abbé Pierre faisait tout pour trouver des logements aux plus démunis. Emmaüs existe toujours et l'une de ses petites sœurs, l'association Emmaüs Connect, s'attaque à une précarité devenue critique, elle aussi, la fracture numérique. 8 millions de Français qui n'ont pas d'ordinateur ou de smartphone, un outil pourtant indispensable, surtout quand les confinements imposent le télétravail et nous coupent de nos proches.
Et c'est là qu'intervient Emmaüs Connect. Maximilien Carlier pour Europe 1, vous êtes aller voir comment du matériel informatique était récupéré auprès des entreprises.
On a des ordinateurs portables qui ont certains 4 ans, d'autres 5 ans. On a également des écrans, juste des écrans. Il doit y avoir quelques claviers.
Olivia Berthoud est en charge du numérique responsable chez ADEO, voilà, fédération de plusieurs entreprises dont l'enseigne le Roi Merlin.
L'idée, c'est vraiment de donner une deuxième vie au matériel qu'on n'utilise plus, soit parce qu'ils répondent plus aux performances par rapport à notre ambition digitale, soit parce qu'à un moment donné, on est dans des lots de renouvellement et il y a des usages qui ne sont plus possibles.
Tout est récupéré ensuite sur des palettes par des reconditionneurs d'une entreprise adaptée, Frédéric Mass, directeur de Deux Femmes Nord.
Ce sont des personnes en situation de handicap qui vont remettre en état ces ordinateurs.
À destination d'étudiants basés à Lille, à Roubaix, à Béthune, des jeunes en situation de précarité numérique, Camille Bardou, chef de projet Emmaüs Connect.
Le manque d'équipement, c'est un réel frein en fait à l'insertion numérique notamment, sachant que nous on reçoit en général des personnes qui gagnent autour de 650 euros par mois, donc c'est indispensable de leur offrir du matériel qu'ils puissent se permettre d'acheter.
Des ordinateurs donnés ou revendus à tarifs solidaires entre 80 et 100 euros. Lille, Maximilien Caradieu, Europe 1.
C'est une affiche magnifique et une revanche. Bayern Munich, Paris Saint-Germain comme un remake de la dernière finale de la Ligue des Champions de football.
Oui, cette fois l'affrontement a lieu dès les quarts de finale. C'est ce soir Paris qui va se retrouver face à l'un de ses anciens joueurs aussi, Éric-Maxime Choupo-Moting, parisien devenu munichois. Un profil atypique mais aussi très attachant, Cyril de la Morinerie.
Oui, personne n'a oublié que c'est lui qui a qualifié le PSG il y a près de 8 mois pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Oh, le but ! Le sauveur, Choupo-Moting !
L'attaquant né à Hambourg d'une mère allemande et d'un père basketteur camerounais a surpris tout le monde en rejoignant le Bayern, l'habituel remplaçant, présent dans tous les bêtisiers après un raté mémorable contre Strasbourg. N'a d'ailleurs marqué que 5 buts cette saison en Allemagne, mais comme au PSG, Éric Choupo-Moting est devenu la coqueluche du vestiaire bavarois, confirme l'ancien joueur du Bayern Munich, Gernot.
Choupo-Moting est un joueur qui fait l'unanimité avec sa bonne humeur, un joueur polyvalent et toujours content même s'il est remplaçant.
Et cette fois, Choupo-Moting sera sans doute titulaire. Il devra faire oublier la superstar actuellement blessée Lewandowski, mais aussi servir en quelque sorte d'espion, explique l'entraîneur bavarois Hansi Flick.
Choupo, je l'ai déjà dit, hein. On échange sur certaines idées, on vérifie avec lui certaines analyses sur le Paris Saint-Germain. Donc oui, bien sûr, il y a eu une communication avec lui.
Ce soir, Choupo, comme on l'appelle, espère jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers du PSG.
Alors, pour savoir si Choupo est resté fidèle à lui-même, rendez-vous ce soir sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h avec le match en intégralité.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 8h13 et à suivre alors qu'on débat de l'euthanasie à l'Assemblée nationale demain. Un témoignage ce matin, Michel Philippin, un homme qui a accompagné sa femme, Mireille, en Suisse pour une fin de vie choisie. Il répond aux questions de Sonia Mabrouk dans un instant. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, débat sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, question de société extrêmement sensible. Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité, Michel Philippin. Il a accompagné sa femme Mireille en Suisse en 2014 pour un suicide assisté.
Bienvenue à vous et bonjour Michel Philippin.
Bonjour Sonia.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était en 2014 avec votre épouse Mireille. Vous avez fait le choix de traverser la frontière pour aller en Suisse afin d'accompagner ses derniers instants. Pendant des années, votre épouse Mireille a souffert de douleurs neuropathiques, des douleurs chroniques insupportables provoquées par une lésion du système nerveux. Et puis elle a choisi de mettre fin à sa vie, ou devrais-je dire, vous avez décidé. Ce fut une décision ultime que vous avez accepté.
Oui, tout à fait, tout à fait. À un moment donné, s'il faut se rendre à l'évidence, hein, qu'il n'y a plus aucune solution et que la mort est la seule alternative pour échapper à la douleur.
Votre épouse a tout essayé. Elle a espéré un traitement.
Il faut que vous sachiez que ces douleurs neuropathiques sont d'une violence inouïe, au maximum sur l'échelle de la douleur. Elles sont permanentes, hein, même au repos. Et surtout, elles résistent à tous les antalgiques les plus puissants actuellement connus. Rien ne les soulage. Pas même la morphine administrée à dose maximum.
Rien ne soulageait. Et elle avait, Michel Philippin, votre épouse avait une rage de vivre.
On a tout fait, ce qui était possible pour essayer de la soigner, mais elle était déclarée en échec thérapeutique à la fin d'un long parcours médical de 5 ans.
Et il faut du courage pour décider de la fin de sa vie. Ce n'est pas un abandon pour vous, ce n'est pas une démission.
Le courage, ça a été de supporter si longtemps une telle souffrance atroce. Il est là, le courage. Après, il y a la résignation. Il y a que ça. Il y a qu'une seule porte de sortie. C'est mourir. Donc, à un moment donné, il faut l'accepter. Et je l'ai accepté aussi. J'ai accepté de l'accompagner dans ses derniers moments parce que la démarche qu'on a faite d'aller en Suisse, elle est pas simple et elle aurait été incapable de l'accomplir toute seule sans être accompagnée.
Bien sûr, à partir de cet instant, c'est une association en Suisse qui va l'aider à mourir et tout va être très très encadré par une équipe médicale.
En Suisse, il faut déjà fournir un dossier médical très très complet, détaillant la pathologie, le parcours médical, l'échec thérapeutique, la véracité de l'intensité des douleurs, voilà. Et tout ce qui peut justifier une demande de mort volontaire médicalement assistée. Parce que les Suisses disent pas suicide assisté comme nous. Pour eux, c'est une démarche médicale. Hein. Et ils appellent ça la mort volontaire médicalement assistée. Voilà.
Et vous étiez évidemment aux côtés de votre épouse jusqu'aux derniers instants. Vos deux enfants trentenaires aujourd'hui aussi. Et vous décrivez, Michel Philippin, ce qui peut sembler paradoxal, une atmosphère apaisée.
Il faut dire qu'en France, à partir du moment où on est déclaré en échec thérapeutique, on est complètement abandonné par la médecine. Mais abandonné, c'est vraiment le mot est fort. Il y a rien dans la pharmacie qui permet de soulager la douleur. On peut pas appeler son médecin traitement. On peut pas aller aux urgences. Le centre de la douleur, c'est tous les 6 mois. Ils essayent à chaque fois un traitement qui marche pas. Le neurologue, c'est exactement la même chose. Mireille était abandonnée. Elle a supplié les soins palliatifs de la prendre en charge. Il n'était pas question pour eux d'admettre dans leur service une femme de 60 ans qui n'était pas en fin de vie.
Et là, en Suisse, ce sont des médecins, des anesthésistes qui posent une perfusion avec un médicament létal mis. Et il est demandé une dernière fois à la personne, ça c'est très important, évidemment, à votre épouse, si elle est sûre de son choix.
Bien sûr. Hein. Déjà, il y a en plus, quand le dossier est accepté, il y a 2 visites médicales par 2 médecins complètement indépendants hein, qui vérifient que son intention de mourir est bien liée à sa pathologie et pas à un autre problème d'ordre psychologique ou tout autre, hein, et que sa décision n'a pas été prise sous influence. Voilà. Et en Suisse, c'est un acte médical. Alors, c'est tout simple. On a mis le barbiturique létal très puissant dans la poche d'une perfusion. Et puis, le médecin a demandé à Mireille, voulez-vous mourir? Elle a dit, oui, je le veux. Savez-vous ce que je viens de mettre dans la perfusion? Oui, un produit qui va me faire mourir. Dites-moi ce qui va se passer si vous ouvrez le robinet de la perfusion. Ce qu'il y a dans la perfusion va couler dans ma veine et me faire mourir. Êtes-vous certaine de vouloir mourir? Oui, je le veux. Et dans ces conditions, quand vous serez prête, ouvrez le robinet. Voilà.
Michel Philippin, on est quelques années après tout cela et vous le décrivez avec des mots qui peuvent paraître à l'écoute simples mais qui sont implacables pour nous. Cette dichotomie entre ce que vous avez vécu et la manière dont vous le rapportez aujourd'hui peut paraître extrêmement paradoxale.
Non, ça me paraît pas. C'est pas paradoxal parce que ça se fait dans une atmosphère apaisée. Mireille le voulait, c'était une délivrance pour elle. Et ce qui est paradoxal, c'est quand on lui a annoncé qu'elle allait pouvoir mourir en dignité en Suisse, ça l'a rempli de joie. Ça nous a rempli de joie, oui. Parce que c'était enfin le terme de cette souffrance.
En France, Michel Philippin, une proposition de loi sur la fin de vie et l'euthanasie donc doit être examinée demain à l'Assemblée. 3000 amendements ont été déposés, oui. Ce qui rend quasiment impossible un débat et le vote dans le temps imparti. Comment vous réagissez à cela?
De groupes de pression qui sont minoritaires en France. Hein. Vous savez que près de 96% des personnes interrogées par l'IFOP sont favorables à une légalisation de l'aide active à mourir, et une petite minorité très très influente auprès des décideurs ont déposé 3000 amendements simplement pour saborder l'adoption de ce texte et pour empêcher empêcher notre démocratie de fonctionner.
Mais voilà. Une minorité qui a aussi des arguments légitimes, selon vous, parfois aussi, il y a des groupes, il y a les religions, les trois monothéismes qui sont d'accord hein, sur ce sujet si sensible, catholiques, musulmans et juifs. Vous comprenez aussi ces arguments-là?
Mais non, moi je les comprends pas, c'est-à-dire que je respecte infiniment les croyances de chacun, mais croire comme les chrétiens que par exemple, avec la passion du Christ, croire aux vertus rédemptrices de la douleur et penser que Dieu seul donne la vie et peut la reprendre, bon ben ce sont des croyances qui sont infiniment respectables, mais pourquoi et au nom de quoi les imposer à tout le monde? C'est ce qui se passe actuellement.
Mais pour vous, c'est une question de civilisation, vous diriez cela?
Oui, c'est une question de civilisation.
Légaliser l'euthanasie est une question de civilisation.
C'est une question de civilisation, oui. Mais tous nos proches voisins adoptent les uns après les autres cette loi qui permet aux gens de choisir leur fin de vie librement, et ça viendra un jour en France.
C'est intéressant.
Il y a aussi les médecins. Oui. Il y a aussi les médecins.
On va en parler. Mais ce que vous me dites, Michel Philippin, sur la civilisation est important parce que vous nous dites. D'autres pays l'ont fait, ça peut, donc vous considérez cela comme une avancée. Je vous donne un exemple. Michel Houellebecq, dans Le Figaro, considère qu'une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect, que certaines avancées seraient des reculs en réalité, une rupture anthropologique.
C'est Michel Houellebecq qui dit ça, mais sur quels arguments, je sais pas. Michel Houellebecq.
Pour vous, c'est une avancée.
A vécu
une avancée.
Comme moi la réalité d'une fin de vie difficile. Je sais pas comment réagira-t-il. C'est un intellectuel. Bon, on peut toujours disserter dans les nuages, mais qu'adviendra-t-il si lui, il est effectivement agonisant Je sais pas bien. Je vois pas en quoi la civilisation est en cause. Au contraire, ce sont les pays civilisés qui ont adopté cette loi permettant aux gens de mourir dignement et d'éviter des agonies complètement inutiles. Et il est là, et pas ailleurs, le progrès de la civilisation. C'est pas s'attacher sur des valeurs qui sont complètement obsolètes et qui ont un fondement qui vient des fonds des âges.
Il y a
comme
aussi
le commandement « tu ne tueras point ».
Il y a aussi, Michel Philippin, les médecins qui sont là pour soigner. Beaucoup refusent de donner la mort. C'est d'ailleurs le fondement même, le respect du serment d'Hippocrate. Ça, c'est un obstacle sérieux.
Voilà. Mais d'autres médecins dans d'autres pays ont une autre conception et considèrent qu'une piqûre létale, quand c'est nécessaire, quand c'est justifié collégialement, médicalement, eh bien que ça fait partie du continuum de soins. C'est-à-dire c'est un soin ultime, mais c'est un soin. Mais en France, il y a une coupure, c'est-à-dire à partir du moment où on ne peut plus soigner, eh bien on ne sait pas quoi faire des malades et on les abandonne.
Pour conclure, Michel Philippin, cela fait quelques années, c'était en 2014, on l'a dit en début d'entretien.
2014, oui.
Aujourd'hui,
oui.
Plusieurs années plus tard, quand vous repensez à ce moment, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Il ne peut pas y avoir de regrets. Il ne peut pas y avoir de regrets. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Et c'est quelque chose, moi je le répète, que souhaitait mon épouse, vraiment, parce que c'était la seule solution pour elle d'échapper à un calvaire absolument abominable. Quel regret voulez-vous qu'il y ait? Il y aurait eu regret si elle avait dû se suicider. Il y a eu regret. Mais à ce moment-là, non. Et ce qui était dommage, c'est d'être obligé d'aller en Suisse pour pouvoir mourir dignement, alors que c'est un acte médical qui est très très simple.
Merci Michel Philippin d'avoir répondu à nos questions. On entend bien sûr vos arguments. On comprend aujourd'hui que c'est une cause que vous portez, que vous défendez. Et chacun en son âme et conscience, en entendant, en écoutant votre témoignage, se fera aussi son avis. Merci encore.
Voilà, je vous remercie à vous aussi de me donner la parole pour défendre une cause qui, vous le comprendrez, me tient particulièrement à cœur.
Bien sûr, on le comprend. Merci encore.
Merci Sonia Mabrouk. 8h27 sur Europe 1.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Un nouveau point sur l'info, c'est avec Marion Calais dans un tout petit instant avant la météo de Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Le début de la production de vaccins en France ce mercredi, première mise en flacon du sérum Pfizer-BioNTech en Eure-et-Loire au sein de l'usine du sous-traitant Delpharm. La campagne de vaccination accélérée cette semaine avec le déploiement de grands centres comme au Stade de France ou au Parc des Expositions à Bordeaux. Mobilisation également des militaires dans 7 de leurs hôpitaux. Virginie Salmen, est-ce que ce changement d'échelle va permettre à la France de tenir ses objectifs?
Oui, l'objectif des 10 millions de vaccinés sera atteint un peu avant la mi-avril, probablement dès demain soir. Sur le rythme hebdomadaire, les 2 millions d'injections ont été réalisées la semaine dernière, en majorité des premières doses. Cette semaine, la barre est placée un peu plus haut. Les autorités sanitaires tablent sur 2,1 ou 2,2 millions de vaccinations. Mais pour parvenir à vacciner matin, midi et soir, comme le prévoit Emmanuel Macron, il va falloir accélérer sur les dimanches et les jours fériés où l'on vaccine 5 fois moins qu'un jour normal. Le sérum de Pfizer-BioNTech est toujours largement utilisé avec 91% des doses écoulées contre 60% pour AstraZeneca et 60% pour Moderna avec des stocks bien plus faibles. Désormais, le gouvernement vise les 20 millions de vaccinés à la mi-mai et 30 millions mi-juin.
Mi-mai, l'échéance réaffirmée aussi hier par Emmanuel Macron lors d'une visioconférence avec des élèves de 3e pour la réouverture des commerces. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, a-t-il assuré, il ne devrait pas y avoir de nouveaux confinements. Les cours doivent reprendre progressivement, on le rappelle, à partir du 26 avril. La classe, pour l'instant, à distance. Après les bugs d'hier, le ministère de l'Éducation nationale espère un retour à la normale pour ce matin. Le CNED, de son côté, va porter plainte pour des dizaines d'attaques qui ont visé son site Ma classe à la maison. C'est une première étude d'ampleur sur les effets à long terme du Covid. Les dossiers de plus de 200 000 patients examinés et cette conclusion. Un ancien malade sur 3 souffre ensuite de problèmes psychologiques ou neurologiques, anxiété, AVC, démence, troubles de l'humeur, des troubles accrus chez les patients atteints de formes graves de la maladie. Le carton rouge adressé par Amnesty International à la France, la nouvelle secrétaire générale de l'organisation qui a dévoilé hier son rapport annuel, dénonce la politique nocive de Paris pour les droits humains et une destruction à petit feu des valeurs de solidarité et d'égalité. Près de Marseille, 150 personnes évacuées hier soir à cause d'un incendie. Le feu attisé par le Mistral a parcouru une centaine d'hectares au niveau de la commune d'Auriolles dans l'est de la ville. Après les critiques du ministre de l'Intérieur, cette fois c'est la préfecture du Bas-Rhin qui saisit la justice pour faire annuler l'adoption d'une subvention pour la construction d'une mosquée à Strasbourg. La préfecture qui conteste la légalité de cette subvention municipale destinée à une organisation controversée proche d'Ankara. 21h ce soir, le PSG sur la pelouse du Bayern Munich. Quart de finale aller de la Ligue des Champions. Revanche aussi un petit peu de la finale perdue par les Parisiens il y a 8 mois.
Comme on regarde avec un sourire quand elle dit finale perdue à chaque fois.
Ça,
vous l'avez
fait
à 7h aussi.
Ce sera à suivre en direct ce match sur Europe 1, émission spéciale dès 20h et jusqu'à 23h30.
Un autre rendez-vous aujourd'hui sur Europe 1. Votre radio toujours mobilisée pour accompagner les jeunes face à la crise. Notez-le, émission spéciale de La France Bouge tout à l'heure entre 13h et 14h autour des jeunes saisonniers. 8h34, Marion, vous avez oublié une info.
Ah, laquelle ?
Permettez-moi, j'ai vu ça dans le Figaro ce matin. Une petite annonce comme ça, une maison à vendre. La villa, la luxueuse villa. Une des, on devrait dire, mais la luxueuse villa mythique du Parrain, le Parrain 1 en l'occurrence de Coppola, en vente. Alors elle était en vente il y a 5 ans à 195 millions de dollars. Et si je vous en parle, c'est qu'il y a des affaires à faire. Elle est bradée quasiment moitié prix, 90 millions de dollars. Seulement 75 millions d'euros. Attendez, il y a 18 chambres, 25 salles de bain, une piscine, on précise, aux dimensions presque olympiques. Je ne sais pas ce que c'est qu'une dimension presque olympique, mais c'est ainsi le tout sur 14 000 mètres carrés de terrain. J'ai vu qu'il y avait 12 cheminées pour rentrer le bois.
Bah pour 18 chambres, il n'en faut pas moins. Hein.
Oui, mais 12 cheminées pour rentrer le bois, il va falloir se lever tôt. Hein. Je ne sais pas si vous pratiquez.
Mais elle est où cette maison?
Pardonnez-moi, elle était à Beverly Hills, Laurent.
Ah
Cameron.
Bon, je crois.
Elle s'appelle...
Je croyais qu'elle était à Mazamé, je suis à côté de chez moi. Ça ira bien.
La maison de Laurent Cabrol est à vendre. The Beverly House, figurez-vous que, mais c'est antérieur au Parrain, elle a abrité la lune de miel de JFK et Jackie Kennedy.
Ah d'accord.
Voilà.
Ça va tout s'expliquer.
Je suis pas sûr qu'elle porte bonheur du coup, mais entre le parrain et JFK, bon, on enchaîne. Merci Marion. Laurent Cabrol est avec nous. Il fait froid, hein. Plus froid qu'à Beverly Hills.
Oh oui, certainement, parce que j'ai pas regardé Beverly Hills, mais ici il fait très froid. En ressenti, je voyais du moins 10 à 3 ce matin, en ressenti, en tenant compte du vent, du moins 7, moins 8 à Cambrai. Il y avait du moins 6 même à Villacoublay en banlieue parisienne. C'était vraiment spectaculaire. Ce sont des températures extrêmement basses et vous imaginez que la température en souffre. Alors tout à l'heure, je dressais les perspectives du mois d'avril. Je vais y revenir maintenant à notre quotidien, cette journée d'aujourd'hui. Là, nous avons eu un peu de neige ce matin vers Grenoble, Chambéry, vers Genève, vers Annecy. Je vois qu'il y a des pluies verglaçantes du côté de Belfort, du territoire de Belfort. Et puis maintenant, nous allons quand même connaître une journée ensoleillée. Il ne faut pas se leurrer, ce sera très beau et on va se réjouir. Ce sera très beau, malheureusement un petit peu sec, mais la pluie arrive. Donc le soleil va s'imposer presque partout et les quelques nuages qui sont encore présents dans l'Est vont s'en aller. Nous aurons peut-être 2-3 averses sur la Manche et c'est tout. Mais dans l'ensemble, sur les 4/5 du pays, les 9/10 du pays, il fera beau avec des températures de 9 à 14 degrés. Et je disais que la pluie arrive et c'est un bienfait parce qu'on a besoin, le sol est sec, même si nous avons beaucoup d'eau en sous-sol. Eh bien, la pluie arrive pour demain et surtout, non, pour vendredi et surtout samedi, dimanche.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, 8h36 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et je vais vous parler d'hypertension artérielle et plus particulièrement du fait d'avoir une tension artérielle élevée et des conséquences sur votre santé.
Bah tout de suite, Jimmy Mohamed, ça concerne pas mal de monde. J'y pensais. Notre santé dans un instant, notre planète ensuite avec Fanny Agostini. Et puis Nicolas Canteloup, c'est dans moins de 10 minutes maintenant. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1.
Notre santé est présentée par Atoll. Si vous êtes né avant 1981, prenez rendez-vous et allez faire tester gratuitement votre vue chez votre opticien Atoll.
Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin dans Notre Santé, vous allez nous parler d'un lien assez incroyable entre l'hypertension artérielle d'un côté et la maladie d'Alzheimer.
Oui, alors c'est vrai que dit comme ça Mathieu, faut être honnête, l'hypertension artérielle, c'est pas très sexy, ça donne pas forcément envie, et c'est pas une maladie qui fait peur, car en fait elle n'est pas spectaculaire. Pourtant, l'hypertension, c'est la maladie chronique la plus fréquente en France. Un Français sur trois est hypertendu, et le risque de faire de l'hypertension artérielle augmente avec l'âge. Il est de 10% jusqu'à 35 ans, donc vous voyez Mathieu, vous avez un faible risque, et puis il augmente petit à petit, et à partir de 65 ans, il est de 65%. Le problème, c'est que je vous en parle souvent, mais l'hypertension, c'est un tueur silencieux. Vous pouvez avoir 15 ou 16 de tension en permanence sans jamais avoir le moindre symptôme. Pourtant, on sait qu'il existe un lien évident entre cette pathologie et les maladies cardiovasculaires. Vous savez que si vous faites de l'hypertension artérielle, vous êtes plus à risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, mais aussi la maladie d'Alzheimer, puisqu'on s'est rendu compte qu'une tension artérielle trop élevée va abîmer aussi les vaisseaux sanguins, notamment dans votre cerveau, et être propice à développer cette maladie.
Alors, est-ce qu'on est forcément obligé de prendre des médicaments pour traiter cette hypertension ?
Alors pas forcément, mais finalement la question est plus compliquée que ça et la réponse aussi. Vous allez vous rendre compte que l'hypertension artérielle, c'est le fait d'avoir de la tension qui va être élevée tout au long de la journée. Mais normalement, la nuit, lorsque vous dormez, cette tension baisse naturellement de 10 à 20%. C'est comme ça. La nuit, on a une tension qui diminue comme notre fréquence cardiaque. Et on s'est rendu compte d'une chose assez incroyable. C'est que les patients dont la tension artérielle ne baisse pas, notamment la nuit, ont plus de risques de faire une maladie d'Alzheimer que les autres. Donc finalement, la tension artérielle de la nuit est presque plus importante que la tension artérielle en journée. Alors vous allez me dire, mais comment on fait ? La première chose, c'est d'abord d'avoir un diagnostic. Un Français qui est hypertendu sur deux s'ignore, c'est-à-dire qu'il a de la tension sans le savoir. Donc allez voir votre médecin traitant pour contrôler votre tension artérielle. Ça nous permettra de parler d'autre chose que du Covid. Et puis sinon, achetez un tensiomètre que vous pouvez vous prêter au sein de la famille. Et effectivement, avant de proposer des traitements, on va vous donner quelques règles simples. Pratiquez de l'activité physique, essayez de perdre du poids si vous êtes en surpoids, limitez votre consommation de sel ou attention avec l'alcool qui est un puissant hypertenseur. Et puis on va aussi peut-être, comme je vous parle de nuit, de proposer de régler des troubles du sommeil. Car on sait notamment que les insomniaques ont 2 à 3 fois plus de risques de faire de l'hypertension artérielle que les autres. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, le sommeil a des pouvoirs extraordinaires sur notre cerveau.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed. Notre santé tous les matins sur Europe 1 et on vous retrouve à 15h sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Jimmy ?
On va parler de la famille, mais de la famille au sens large, en revenant sur la base de la définition, à quoi ça sert d'avoir des frères et sœurs, et quel est le rôle, justement, de chacun au sein de cette famille.
Vous allez avoir, vous avez des frères et sœurs, vous, Jimmy?
Oui, j'ai deux petits frères. Je suis l'aîné, donc tout va bien.
À quoi ça sert d'avoir des frères et sœurs? Ne dites pas mon frère et ma sœur. Ne dites pas qu'on pose cette question. Merci, Jimmy. 8h41, vous êtes sur Europe 1. Notre planète, tous les matins, c'est avec Fanny Agostini. Bonjour, Fanny.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Vous avez des frères et sœurs, vous, Fanny?
Ah, j'ai un petit frère, oui.
Un petit frère.
Et j'y tiens.
Ce matin, Fanny, rien à voir. Vous allez nous parler du retour progressif et localisé de la consigne de bouteilles.
Oui, il faut savoir qu'en ce moment, il y a un tas d'initiatives locales qui foisonnent pour remettre le système de consigne en place. Pour rappel, la consigne, c'est une petite somme d'argent que le client verse lorsqu'il achète un produit contenu dans un récipient, somme qui lui est restituée lorsqu'il rend ce contenant à un vendeur qui fait partie du système de consigne. Ce système dominait le champ du recyclage jusque dans les années 60, moment à partir duquel les emballages à usage unique ont commencé à gagner du terrain, y compris les contenants en verre. Le système de consigne a d'ailleurs disparu de la loi dans les années 90, et d'après le Centre national d'information indépendante sur les déchets, c'est un intérêt purement commercial et non écologique qui a motivé la sortie du système de consigne, car les distributeurs ont cherché à minimiser le prix des biens vendus, et puis en plein essor de l'industrie pétrolière, le plastique coûtait évidemment moins cher.
Mais 80% du verre est déjà recyclé en France. Pourquoi, Fanny, pourquoi ce retour à un système de consigne?
Alors pour ce qui est du verre, aujourd'hui, faut le savoir, on le jette, on le broie et on le fond. Mais recycler du verre n'est en soi pas du tout écologique. Le verre se fond à 1000 degrés, c'est une consommation énergétique conséquente. Alors son réemploi par le système des consignes permettrait d'économiser jusqu'à 75% d'énergie et 33% d'eau. Mais tout le monde n'est pas forcément pour la consigne, et notamment la filière du vin qui est totalement opposée parce qu'elle a un réseau de distribution de bouteilles bien établi et qu'elle se méfie du coût écologique de transport des bouteilles de verre pour les acheminer vers des points de consigne. Et c'est précisément à ce problème que répondent les initiatives qui foisonnent dont je vous parle. En multipliant les points de récolte chez les vendeurs qui utilisent des contenants en verre, elles minimisent le trajet pour acheminer les bouteilles là où elles sont réutilisées.
Alors que nous racontent les expériences à l'étranger du système de consigne?
Alors, l'un des modèles les plus mûrs sur la question, c'est l'Allemagne, où 98% des contenants consignés sont récupérés. Ça concerne les bouteilles en verre et en plastique, mais aussi les canettes, plus étonnant. Au Canada aussi, la consigne est quasiment systématique et très inscrite finalement dans les mœurs. Le gouvernement français, quant à lui, se satisfait d'échéances peu ambitieuses pour inscrire le retour de la consigne dans la loi, sous couvert de prudence pour préserver les lignes de distribution industrielles. Mais en réalité, ces industries ont démontré leur capacité à s'adapter et survivre à la mise en place des consignes partout ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour systématiser la consigne, qui est l'option vraiment du bon sens et la plus écologique?
Merci Fanny Agostini, Notre Planète tous les matins sur Europe 1. Merci et à demain. 8h44 dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup avec Julie qui s'installe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard, pour le rappel des infos du jour.
Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Regarde le monde se cahier, oui, il faut bien le dire, il fait moins 12, c'est n'importe quoi. C'est une très belle matinale ce matin, on a la grosse patate, même après, vous l'aurez compris, les 10 minutes d'interview de la formidable Sonia Mabrouk sur l'euthanasie, ce matin. Sans parler, bien sûr, de l'interview du député Forlani qui, sur son projet de loi sur la mort anticipée à 6h45 chez Sébastien Krebs. Voilà, c'est vrai, on fait des interviews à thème, voilà, on fait des thèmes comme ça. On parlera d'ailleurs demain à Jimmy Mohamed si on peut euthanasier une radio, c'est une question qu'on se posera. Allez, on a la grosse patate. Allez, on a la grosse patate, oui, je vous le dis. Allez, j'ai fait une interview plus légère à 7h40 avec après Corinne Sombrin, Miss Trans, j'ai reçu la star du Paris Saint-Germain, Ander Herrera. Oui, bon, je sais, à part Virginie Fulpin, personne ne sait qui c'est.
Bah mais c'était... Oui, mais vous allez le voir ce soir, moi j'en suis sûr, on va le voir ce soir,
oui.
Il va rentrer.
Arrêtez de me péter ma vanne. En tout cas, c'était ça, ou alors j'avais aussi l'interview du cousin, du parrain, de la tante de Neymar. Voilà, on fait ce qu'on peut. Allez, l'info du jour, c'était... Hier, le premier jour d'école à la maison, vous l'avez tous vécu, chers parents. Dans la plupart des foyers, tout s'est bien passé. Sur 6 heures de cours, il n'y a qu'à peine 3 heures de crise pour regarder la Reine des Neiges, 2 heures de nettoyage pour avoir mis du Nutella partout sur les devoirs. Ça va être long, 4 semaines, je vous confie. Allez, courage à tous, on est tous des parents. L'autre info, c'est Jean-Michel Blanquer qui a déclaré que les sites de cours à distance de l'éducation nationale avait été touché par des cyberattaques venues de l'étranger. Et oui, on le sait tous, depuis le Covid, les hackers chinois s'ennuient tellement qu'ils empêchent les élèves de 6e B de Tourcoing d'apprendre leur cours sur le théorème de Thalès. Oh putain, il est temps que ça se termine cette pandémie.
Oh là là, oui. Merci Mathieu. L'Agence européenne du médicament confirme un lien entre le vaccin AstraZeneca et les thromboses. Bonjour Michel Simès.
Eh oui, bonjour ma chère Marina. Bonjour à mon confrère Jimmy Mohamed qui nous donne l'impression d'être plus jeune chaque matin car il nous parle souvent comme à des enfants.
Eh oui, je vais vous parler de la tension, l'hypertension artérielle. Ça arrive à tout le monde, l'hypertension artérielle. Et ça augmente à partir de 65 ans, les enfants. Donc sachez-le. Et on a trouvé quelque chose d'incroyable. C'est que lorsque la tension ne baisse pas la nuit, c'est qu'on va d'Alzheimer. Donc les enfants, dormez la nuit. C'est le conseil santé que je peux vous donner. Parce que moi, mon truc, c'est de dormir. Chaque fois, on retombe sur le fait qu'il faut dormir, que c'est hyper important, le sommeil.
Merci, mon cher confrère Jimmy. Allez, vous le disiez, Julie, c'est l'occasion de vérifier une nouvelle fois la grande logique de notre gouvernement. Il y a 15 jours, quand il y avait des soupçons, seulement des soupçons de dangerosité, on avait interdit le vaccin, vous en souvenez, carrément interdit. Mais maintenant qu'on a la certitude qu'il y a des dangers, eh bien, on l'autorise. Voilà. À vous, Julie.
Oui, mais il y a très peu de cas de thrombose quand même. Hein, et c'est un vaccin qui est très efficace contre les formes graves du Covid.
Tout à fait, Marina, car n'oublions pas qu'avant tout, il y a un lien encore plus fort entre le Covid et le décès. Voilà,
oh là là.
Une dizaine de morts par thrombose contre, regardez, on va calculer, 10 de morts par thrombose, oui. C'est les 10 doigts de la main, contre 3 millions de morts du Covid. Il y a un peu plus que 10 doigts de la main. Voilà, comme ce soir, il y a PSG Bayern, je me permets de rappeler qu'un match de foot qui se terminerait par le score de 3 millions à 12 serait un peu déséquilibré.
Eh bien, merci docteur, à bientôt.
Allez, je file pour tout vous dire, je vais aller regarder la série qui cartonne en ce moment, Hippocrate saison 2.
C'est vrai qu'après une journée à l'hôpital, rien ne vaut une bonne série sur les hôpitaux.
Bon, vous savez, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des hôpitaux.
Merci, docteur Simès.
D'ailleurs, je ne sais même plus, on dit des hôpitaux ou des hôpitaux, tellement il y a longtemps que je n'en ai pas vu.
Stéphane Bern a dévoilé la liste des 18 sites sélectionnés pour sa mission patrimoine 2021. Alors Stéphane, quels sont les sites sélectionnés?
Oh, quels sont les sites? Eh bien, ils sont moult, ma chère Julie. Et demain, d'ailleurs, je vous expliquerai l'expression moult.
Oula,
ils sont moult. Et alors, il y a tout d'abord la ferme. Nous en avons parlé avec Nicolas Bétou et Mathieu. Il y a la ferme de Villarivon aux Chapelles. Il y a également les écuries de Richelieu à Gennevilliers. L'abbaye de Mont-Derche dans le Lot-et-Garonne, chère à notre ami Laurent Cabrol. La cuisine de Pierre-Jean Chalençon au Palais Vivienne.
La cuisine de Pierre-Jean Chalençon au Palais Vivienne.
Ah ben oui, c'est un endroit en péril, allons. Mais depuis que ce crétin à bouclette gère ce palais napoléonien, plus personne n'ira jamais dans cet endroit historique. Il faut absolument le sauver. Alors, d'habitude, je suis plutôt pour la reconstruction, mais là, j'ai opté pour la démolition. Il faut démolir Pierre-Jean Chalençon. Non mais, je suis le seul historien ami de Brigitte. Je le rappelle, c'est moi l'historien ami de Brigitte. Hein, cette ville est trop petite pour nous deux, Pierre-Jean, je te le dis.
Oh là là, bon, écoutez, duel. Ça va se terminer par un duel, oui. Bah justement, on va revenir sur ces dîners mondains auxquels des ministres du gouvernement auraient participé. Ce sont des accusations graves, hein, qui, même si elles sont fausses, accentuent la défiance à l'égard des politiques. Bonjour François Hollande.
Hey, bonjour. Je suis choqué, oui, M. Cabrol, choqué, doublement choqué. Le citoyen François Hollande est choqué par l'attitude des ministres, cet entre-soi des élites toutes puissantes, disons-le, et le gastronome François Hollande est également choqué. Est-ce que vous avez vu sur Internet la gueule des endives de Christophe Leroy, ce chef étoilé? 400 balles pour ça. Non, mais il se fout de la gueule du monde, franchement.
Non, mais revenons à l'analyse politique. Le problème, c'est surtout que ça donne l'image d'une classe politique qui ne respecte pas les règles qu'elle fixe elle-même, hein, en plus.
Mais vous avez raison. Vous avez raison. Très bonne analyse, Mme Leclerc. Bah, oui. C'est gravissime. Je n'aime pas les riches. J'ai déjà dit, mais là, que des ministres et peut-être participer à ces coûteuses agapes pendant que la France d'en bas, les sans-dents, respecte, elle, les règles. Quel manque de civisme de base, quel manque, oui, je le dis, quel manque d'exemplarité de la part des ministres d'Emmanuel Macron.
Non, mais dites donc, déjà, on n'est pas sûr qu'il y ait eu des ministres à ces dîners. En revanche, on est sûr que vous êtes bien le président qui a nommé un ministre du budget, Jérôme Cahuzac, qui avait caché quelques sous en Suisse.
Oui. Hey, oh, hey, hop, tiens, hop, ça, ça va couper. Julie, Claire, je passe dans le tunnel.
C'est ça. Il pratique le tunnel hein, dans ces cas-là. Merci, monsieur Hollande. Allez, autre chose, il a neigé sur Paris. Quatre jours avant, il faisait 27 degrés. Bon, tout de suite, la météo de Ségolène Royal. Désolé,
oui,
Laurent, hein. C'est Ségolène.
Oui, bonjour à mon confrère Laurent Cobrol. Bonjour à tous et bienvenue à cette météo Port Norwalk. Bref, à force d'en avoir rien à péter de l'écologie, voilà, vous avez la météo que vous méritez, bande de nozes. Hein, voici donc les prévisions du congé de fin de semaine. Alors, samedi matin, il fera donc 37 degrés, hein, un vrai 37 degrés sur Paris, avant d'avoir quelques nuages bas sur les coups de 13 heures et l'arrivée d'un froid glacial à 15 heures. Hein, il fera moins 13 degrés dans la capitale à 17h. À noter une tempête tropicale.
Oui, c'est tropical qui est marqué.
Tropicale qui s'abattra sur la Bretagne dimanche, tandis que la Corse, elle, de son côté, sera totalement engloutie à jamais mardi par un tsunami. Voilà. Oh là là. Apparemment, c'est le temps qui vous convient, vu qu'on a tiré la sonnette d'alarme 115 fois en 10 ans, mais que vous n'avez rien à taper de la planète, bande de nazes.
Oh là 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 là.
Bon. En souhaitant la bonne journée.
Merci, merci Ségolène Royal. Revenez, Laurent Cabrol, s'il vous plaît, pour la météo. Allez, le mot de la semaine, c'est vaccinodrome. On a tous vu les images de cette vaccination de masse, hein, au Stade de France, par exemple. Nous sommes en direct, justement, du stade avec Aimé Jacquet. Bonjour, Aimé.
Oui, les gars, attention.
Alors, vous retourné hein, sur le lieu de vos exploits. Hein. Je crois que vous êtes déjà en pleine vaccination.
Et là, je suis au Paper Bird. Hein. J'explique les choix stratégiques à nos vieux, à nos aînés. Ouais. Un peu de silence, là, on se concentre. Voilà. Ginette, Gaston, Maurice. Hein, c'est là que ça se passe. Marie-Louise, Malou, c'est toi qui vas passer un point pour la vaccination. Hein. Derrière, en couverture, je veux Yvette et Gaston. Alphonse, Quentin, vaccin Pfizer arrive, hein, tu le prends tout de suite, t'hésites pas. Quand un vaccin Moderna arrive, tu prends. Quand c'est un AstraZeneca, non, Yvette, quand c'est un AstraZeneca, tu te caches pas derrière tes petits camarades. Tu saisis l'occasion, t'avances vers le vaccin. Attention, Yvette, faut musquer ton jeu, Yvette. T'es trop gentil, Yvette. Si tu musques pas ton jeu, Yvette, tu vas au-devant de graves déconvenues, Yvette. De la thrombose, oui, la thrombose.
Bon, ben, il ne change pas, Aimé Jacquet. Hein. Allez, Didier Deschamps, maintenant, est avec nous. Il est sur place, lui aussi. Hein. Oh, c'est plein de souvenirs pour vous, ce Stade de France, Didier.
Ah, mais c'est sûr que c'est plein de souvenirs. Hein. Stade de France, c'est bien sûr France 98.
Eh oui.
Bon. Et là, c'est toujours France 98. Sauf que, bon, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Hein. 98, maintenant, c'est l'âge moyen des personnes qu'on vaccine. C'est sûr que ce n'est pas la même bien. C'est une autre forme de 98.
Et Zinedine Zidane est aussi au Stade de France. Ça vous fait chaud au cœur, hein, j'imagine, Zizou. Une ambiance totalement différente, il faut le dire.
Hein. Oui, non, c'est sûr que c'est différent. C'est bien quand même. Mais bon, c'est sûr qu'on ne va pas leur demander de faire la hola. Parce que sinon, on va avoir des blessés. Quoi. Maintenant, en 98, on chantait notre hymne. C'était I Will Survive.
Voilà,
en 2021, c'est le projet de tous les papis et les mamies qui viennent se faire vacciner. C'est aussi I Will Survive, vous pensez.
Là.
Mais ça fait du bien.
On va terminer avec ça.
Un petit Gloria Gaynor de bon matin comme ça. Merci Nicolas Canteloup, merci Julie. La revue de presse à retrouver sur Europe1.fr, bien sûr. Allez, 8h57, Culture Média va démarrer là, dans quelques toutes petites minutes. Philippe Vandel est déjà là, d'ailleurs.
Mais évidemment, bonjour, évidemment que je suis là. Bonjour Mathieu, bonjour Julie. Notre info média du jour va s'intéresser à The Explorers. C'est une application française qui a été récompensée par Apple TV, meilleure appli de l'année. C'était il y a 2 ans. Ça continue son objectif, c'est ils font l'inventaire du patrimoine culturel et naturel de la planète en vidéo haute définition. Son fondateur, c'est Olivier Chiabodo, il sera avec nous. Il va nous donner le nom de son nouveau partenaire en exclusivité. Je le connais, je ne vais pas le dire, je ne vais pas spoiler, mais c'est du lourd.
Suspense.
Au sommaire également, le nouveau Vanity Fair, avec son nouveau directeur de la rédaction, c'est Joseph Ghosn. Il va raconter ce qu'ils font sur le print et sur Internet, évidemment. On parlera d'Ayana Kamura, de Daft Punk, mais aussi du vaccin Pfizer. Et puis l'animateur est désormais auteur, William Lémergie. William Lémergie, Télématin, et puis il est maintenant sur C8 à midi. Eh bien, il sort son premier roman, c'est presque un roman érotique. Ça s'appelle Mirbalet. Oui, Julie. Mirbalet ou l'amour interdit. Elle n'avait rien dit pendant 2 semaines.
Vous l'avez entendu,
et
là,
on lui dit roman érotique. Elle a fait Ah,
un micro éteint, vous l'avez entendu quand même. Ouais. Philippe Vandel, c'est Culture
J'ai
Média.
Sélectionné les passages pour vous, Julie.
Oh, merci, Julie. Gardez cette place. Ne bougez pas, on va vous la piquer sinon. Culture Média de 9h à 11h, c'est sur Europe 1 avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Un bon match pour ceux qui aiment le foot ce soir, soirée spéciale sur Europe 1 à 20h. Et je vous retrouve demain matin. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.